Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Maginel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite!
Libraire, elle passe ses journées dans l'un des lieux les plus merveilleux de Paris, que vous avez vu au cinéma, chez Woody Allen, Richard Linklater ou Nora Ephron, Shakespeare and Company. Ouverte par son père George Whitman en 1951, le lieu qui héberge les écrivains de passage a logé Allen Ginsberg, Gregory Corso ou William S. Burroughs. Encore aujourd'hui, lieu de festival, de rencontres littéraires foisonnantes, la librairie n'a jamais perdu son souffle, grâce à sa nouvelle patronne. C'est Sylvia Whitman qui nous accueille dans sa bibliothèque personnelle à quelques rues de là et choisit trois livres merveilleux. Circé, de l'écrivaine américaine Madeline Miller, chez Pocket. Archives des enfants perdus, de la romancière mexicaine Valeria Luisli, aux éditions de l'Olivier. Et Frankenstein, de la britannique Janet Winterson, pas encore publié en français et publié en anglais, chez Jonathan Cape et Penguin Random House. Et c'est Janet Winterson qui écrivait dans son livre « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» C'est vrai, les histoires sont dangereuses, ma mère avait raison. Un livre est un tapis volant qui vous emporte loin. Un livre est une porte, vous l'ouvrez, vous en passez le seuil. En revenez-vous. Vous écoutez le Book Club, le podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Gladys Mariva qui est entrée dans celle de Sylvia Whitman.
Dans la cuisine de Sylvia Whitman, qui est donc la libraire de la célèbre librairie Shakespeare et compagnie. Et donc forcément, dès qu'on arrive, bah, y a plein de livres, quoi.
Ouais, c'est un peu mieux que chez mon père, quand mon père vivait au troisième étage en haut de la librairie. Il n'y avait même pas de fenêtre. Parce qu'il avait bloqué les fenêtres avec des étagères, parce qu'il a dit, mais il faut, chaque coin, il faut mettre des livres. C'est une obligation pour lui. Donc là, je trouve que c'est assez calme comme situation, parce qu'on a les fenêtres qu'on peut ouvrir. Mais c'est vrai, il y a des livres dans la cuisine, enfin dans chaque pièce, parce que je me sens tout de suite chez moi. Quand j'ai des livres à côté.
Donc là, du coup, dans la cuisine, t'as tes livres de cuisine. Enfin, c'est thématique finalement comme à la librairie, quand tu gardes le réflexe de rangement par thème, comme dans une librairie.
Alors, je pense que j'ai suivi un peu l'organisation de la librairie, parce que quand je suis arrivée, la librairie était, on va dire, pas très organisée. Mon père, il a trouvé ça vraiment pas important de mettre les livres en ordre alphabétique, en sujet similaire. Pour lui, l'important, c'était d'avoir le temps pour lire. Et en plus, il a beaucoup aimé l'idée de des surprises. Donc, de voir un livre, de découvrir un livre à côté que peut-être tu n'avais pas cherché, mais comme celle-là, c'était un « interesting marriage ». Disait. Mais bon, quand on a commencé d'avoir de plus en plus de visiteurs, ça a commencé à être un peu frustrant de ne pas avoir la librairie en lettres verbatiques. Donc je pense que moi, j'ai un peu suivi ça. Donc il y a 10 ans, j'étais beaucoup moins méticuleuse avec ma collection. Il y avait des livres partout, des piles partout, il n'y avait pas du tout d'ordre. Et là, maintenant, depuis quelques années, je suis devenue vraiment maniaque. Mais vraiment, c'est là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai du mal à prêter des livres à des amis parce que je te prête, mais vraiment, comme j'ai pas de journal, mais c'est les livres sont ma journal parce que je note des choses, je souligne des choses. J'ai vraiment une relation très personnelle avec le livre. J'ai prêté Rachel Cusk à un collègue. Elle m'a dit, j'ai eu un fou rire parce que j'ai lu la dernière page et j'étais là, oh, wow, c'est incroyable ce livre, c'est incroyable. Et après, elle a tourné la page et il y avait des notes, mais pas du tout sur le livre, mais sur d'autres choses. Un peu embarrassant, je pense. Elle a trouvé ça tellement drôle, le contraste.
Okay. Une bonne thérapie.
Je vais mettre le thé.
Allez, faisons le thé. Et tu disais dans la cuisine, donc des livres de cuisine, alors la cuisine comme... Alors bon, tout en anglais, globalement. Hein.
J'ai quelques livres pour la cuisine française, mais c'est plus... c'est très international. Il y a Otto Langhi, je pense pas qu'il est très connu en France, mais en Angleterre, il est énorme. C'est deux chefs, un chef israélien et un chef palestinien qui travaillent ensemble. Et ils ont maintenant 3 restos à Londres. Et c'est mais vraiment délicieux. C'est tout des choses très frais, beaucoup de citron, beaucoup d'épices. J'adore. Et beaucoup de recettes végétariennes aussi. Mmh. Après, j'ai Nigella Lawson, qui est anglaise. Là, c'est le contraire. C'est beaucoup de crème fraîche, beaucoup de beurre. Donc, j'aime bien un équilibre entre... Mais je suis intéressée dans tout.
Parce qu'il y a aussi indienne.
Ouais. Oui, oui, non, mais vraiment, j'aime tout. Et après, j'ai un petit coin poésie, parce que Jeanette Winterson, qui est un des écrivains que j'ai choisi pour aujourd'hui, elle a dit que le matin, il faut commencer par un poème, parce que c'est l'équivalent pour le cerveau d'un expresso. Et... voilà, donc j'ai commencé à faire ça. Et c'est vrai que c'est super. C'est super. Puis ça, c'est une collection assez nouveau par Nick Laird et Dawn Patterson, deux grands écrivains, poètes anglophones.
Chaque matin, tu lis vraiment un poème?
Oui, j'essaie. Il y a des matins où c'est trop... on est déjà trop en retard, ou on a eu une mauvaise nuit, ou je ne sais pas quoi. Mais j'essaie. Peut-être je fais 3-4 fois par semaine. Et je fais devant... j'ai 2 fils et mon fils de 6 ans. Et tout ça, c'est drôle. J'avais mis « Now we are 6 A.A. Milne ». Donc, c'est la poésie, mais par l'auteur qui a écrit « Winnie the Pooh ». Donc, ça, c'est spécifique pour mon fils Gabriel. mais j'aime bien. Il y a une autre citation que je viens de mettre dans notre nouvelle pièce de poésie. Où Jeanette, elle dit « Fiction et poésie sont comme des doses, des médicaments. Ce qui guérissent est la rupture qu'impose la réalité sur l'imagination.
» Donc, c'est une bonne manière de commencer la journée pour passer du rêve, enfin, la nuit, au jour et à la réalité.
Ouais. Oui, exactement, oui.
Là, on est dans le salon, c'est ça? Et donc là, bon, clairement, il y a des livres sur tous les murs. Mais c'est vrai que c'est bien rangé. Et donc là, c'est la fiction-non-fiction mélangée?
Oui, parce que comme vraiment, c'est des boussoles dans ma vie, les livres. Quand j'ai besoin de chercher, j'ai envie de chercher tout de suite. Donc, c'est plus simple pour moi si c'est l'autre alphabétique. Et c'est pas dans un système de poésie là, non-fiction-là. Et il y avait des moments où je me suis dit, peut-être à la librairie, ça serait super de faire la même chose, de mettre tout à l'ordre alphabétique. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'aiment pas d'être dans le rayon science-fiction ou dans le rayon polar, qui aiment beaucoup l'idée d'avoir tout mélangé, qu'il n'y a pas une sorte de hiérarchie, peut-être. Mais bon, l'espace de la librairie, c'est un très ancien bâtiment du XVIIe siècle avec beaucoup de coins. C'est pas très facile. Je pense que si on avait une sorte d'usine avec quatre énormes murs, ça serait plus simple. Mais c'est pas très facile de faire ça dans cet espace. Donc voilà, je fais ça chez moi parce que voilà, c'est quand j'ai besoin de trouver un livre, il y a une sorte d'urgence. Quand c'est un livre que j'ai lu dans le passé. Et donc ça, c'est plus ici. Le livre que je n'ai pas encore lu, c'est un peu plus bordélique, on va dire, parce que c'est vraiment des piles sur le côté. Il y a plein de piles à côté des livres, le lit. Et...
Donc là, tu veux dire les piles qui sont sur le côté de ton étagère,
voilà,
qui te dépassent en fait, tellement qu'il y en a pour visualiser le truc. Il y a 1,80 m de piles de livres.
Je suis gâtée. Quand on est dans une librairie, tous les jours, il y a soit un livre que je dois emmener chez moi parce que c'est un événement qu'on a organisé avec l'auteur. Et donc, évidemment, je veux lire... le livre, par exemple, Rachel Cusk, elle va venir en décembre. Ça, c'est sa nouvelle collection des essais. Donc, il faut absolument que je lis ça. Ou soit, c'est une recommandation par un autre libraire ou un client. Parce qu'on a tous les jours, on a des conversations avec des clients, avec des collègues. Et il y a une sorte d'urgence parfois. La personne te donne un livre en disant... faut absolument lire ça tout de suite. Et puis sinon, c'est un nouveau livre. Là, par exemple, je ne pouvais pas résister d'emmener le nouveau livre de Naomi Klein, On Fire, et le nouveau Patti Smith qui vient de sortir, The Year of the Monkey. Donc, c'est parfois un peu ridicule parce que j'emmène presque un livre par jour. Je n'arrive pas à lire un livre par jour. Mais c'est vrai que ce que j'adore quand on travaille dans une... librairie ou même dans une bibliothèque, il y a une sorte d'ouverture pour la curiosité.
C'est marrant parce que quand tu dis à travailler à la librairie, ça m'a ouvert et tout, je me demandais du coup à ce que tu disais avant de travailler à la librairie, est-ce que justement tu disais genre que Shakespeare ou je sais pas, ou que de la littérature anglaise et du coup après t'es allé sur la fiction. Enfin, qu'est-ce que du coup le fait de travailler à Shakespeare et compagnie à la librairie, sur quel sujet ça t'a ouvert
sur tout. Ouais, non mais je me suis rendu compte que peut-être c'était la pression d'avoir. D'être la fille d'un libraire que j'aurais dû lire tous les œuvres de Dickens à l'âge de 12 ans. Et donc, du coup, j'ai un peu refusé cette pression et je suis allée très profondément dans le théâtre. Et donc, les seules choses que j'ai vraiment lues, c'était les pièces de théâtre, Tom Stoppard, Shakespeare, bien sûr, mais aussi beaucoup d'Oscar Wilde. Arthur Miller. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps en train de faire le théâtre. Et c'était une vraie passion. Et après, quand je suis revenue à la librairie un été, mon père, il m'a dit, mais tu peux être le star de la scène ici, à la caisse. et donc, j'ai trouvé ça très charmant. Mais je suis vraiment, mais sérieusement tombée amoureuse de Paris, de la librairie, le caractère très difficile mais fascinant de mon père, mais aussi de la littérature et des livres. Et c'était très puissant. Je trouve que j'ai la chance parce que j'ai senti ça très fort, comme j'ai un peu le rejeté pendant mon adolescence, mon enfance. Quand je l'ai retrouvé à 22, 23 ans, c'était extrêmement fort. Et je pense que dans toutes les librairies, mais surtout dans cette librairie-là, je trouve que les gens sont vraiment sincèrement enthousiastes, sans jugement. Il n'y a pas de jugement. « Ah, t'as pas le sein !» C'est plus « Ah, t'as pas le sein, mais ah, je suis jalouse !» T'as la chance, tu peux commencer ça, tu peux vivre dans ce monde-là pendant 2-3 jours. Donc, c'était vraiment avec tout que j'ai tombé amoureuse avec les romans, la littérature, mais aussi la philosophie, science, les polars, enfin, tout. Et j'aime... Enfin, c'est pour ça que j'adore d'être dans cet espace, d'être tout le temps en contact avec ces livres qui sont comme des personnages. Et aussi, il y a un truc que je trouve très frappant dans une librairie ou dans une bibliothèque, c'est qu'on peut être seul parmi les autres. Donc, c'est une façon de mélanger la solitude et la communauté. Et puis, on est lié avec les autres, les autres gens dans la librairie. C'est évidemment un endroit très romantique. Moi, j'ai rencontré David là. Mais il y a beaucoup d'histoires d'amour qui ont commencé là. Et puis, souvent, ça commence avec un livre.
Je vais mettre un peu d'eau dans le...
On refait du thé ?
Le thé, parce que...
On va peut-être commencer, du coup, par Circé, de Madeleine Miller. Donc, tu as choisi ce livre qui est paru récemment en poche. Donc, du coup, comme ça, on peut l'avoir pour pas cher, donc aux éditions Pocket. Madeleine Miller, Circé, dans une traduction de Christine Hoche. Voilà. Donc, Madeleine Miller, c'est une auteure américaine qui est jeune, en fait, qui est née en 79, je crois qu'elle a que 41 ans. Brillantissime, diplômée en latin et en grec, Brown University.
Elle enseigne Shakespeare aussi. Et je pense que ça va être son prochain projet. Réécriture de La Tempête. Ouais. Encore un île.
Ouais, elle est un peu fascinée par les îles. Alors, elle avait écrit un premier roman qui s'appelait Le Chant d'Achille, ouais, qui a été pas mal récompensé. Donc, son truc, c'est un peu, j'ai l'impression d'aller chercher les histoires parallèles, ou en tout cas non approfondies de la mythologie grecque, et puis de leur donner un peu comme ça une profondeur ou un nouveau regard. Ouais. Et dans Circé, en fait, elle prend ce personnage qu'on aperçoit chez Homère, puisqu'elle le transforme en cochon, en fait. Voilà.
De l'équipe de Ulysse.
Mmh. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle. Ouais. Et du coup, elle explique l'enfance de Circé, son éveil à la sorcellerie, enfin, comment elle découvre ses pouvoirs, comment à cause de ses pouvoirs, elle est exilée effectivement sur une île. Et ce qui va s'en suivre, un apprentissage de la liberté, des pouvoirs de la femme, de l'érotisme. Et l'affirmation de soi, en fait. Il me semble que c'est un livre sur ça. Alors, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre ? Comment tu l'as découvert ?
Globalement, on connaît Circé, Homère, comme la sorcière qui transforme les hommes en cochons. C'est comme une réécriture féministe du personnage de mythe de Circé. Et j'ai aimé tout dans cette histoire. Déjà, je trouvais c'était un roman... absolument addictive. Son style est vraiment très fort pour continuer l'histoire, pour attraper ton attention, pour t'emmener avec. Et puis le monde des dieux est un... Mais c'est tellement un monde fascinant d'être... plongé dedans. Et la mythologie grecque, sauf la traduction récente de Homer par Emily Watson en 2017, a été racontée souvent, mais souvent par les hommes. Et la personnage de Circé est si complexe que vraiment ça la rend parfaite comme personnage à revisiter, à réclamer, à repositionner dans l'histoire. Elle est considérée comme une parabole contre l'ivresse et l'incarnation de l'émasculation. Mais chez Madeleine Miller,
Circe est pas seulement une demi-déesse, mais avant tout une femme puissante, une femme libre. C'est vrai que elle a choisi une personnage mais fascinante. J'étais très émue par la rejection de Circe par sa famille.
Ouais, comment elle est rejetée par son frère et sa sœur qui disent qu'elle est laide. Elle a des yeux jaunes, elle a une voix hyper désagréable, ouais. Parce qu'elle a une voix un peu humaine en fait, oui. qui sonne un peu aiguë. Bon, elle trouvera jamais de mari. Enfin, c'est vraiment voilà.
Non, mais c'est ça que je trouve tellement émouvant, c'est que en plus c'est dans la première personne, donc on est vraiment avec elle. Et on subit tout le traitement horrible d'elle par sa famille et tout ça. Et sa rejection permanente, elle a toujours envie de trouver son chez-soi, chez sa famille, chez les dieux. Et elle n'arrive pas. Et là, le fait qu'elle est rejectée, parce qu'en fait, elle passe à un acte de sorcière sur quelqu'un qui s'appelle Skyla. Et après, son père, Helios, l'a dit, bon, bah, maintenant, tu vas vivre toute seule sur cette île, l'île d'Ea. Et évidemment, c'est beaucoup de solitude et tout ça, mais elle trouve une nouvelle liberté sur son île. Et son prison devient un moyen d'émancipation. Elle aurait pu jamais trouver cette puissance si elle avait resté dans la situation à l'Olympe avec les dieux. Donc c'est toujours très beau de voir quelqu'un qui plonge jusqu'au bas des choses et qui est vraiment dans une grande solitude et qui passe un moment très difficile et qui, comme une phénix, est renaît. Et il y a un moment où quand elle trouve sa force de sorcière, oh, mais c'est tellement excitant de lire ça. Elle est en train d'entrer dans le bois, elle dit voilà, je entre dans le bois et ma vie commence.
Ouais, ça, j'ai retrouvé ce passage et quand elle arrive en fait sur l'île, voilà ce que signifie l'exil, personne n'allait venir, personne ne viendrait jamais. Bien qu'il y ait de la peur dans ce constat, après ma longue nuit de terreur, elle me sembla légère et sans conséquence. J'avais éliminé l'essentiel de ma lâcheté en transpirant un bon coup. Une étincelle joyeuse l'avait remplacée. Je ne serais plus un oiseau en cage, trop borné pour s'envoler alors même que les portes sont ouvertes. Je m'enfonçais dans ces bois et ma vie commença. Voilà.
Ça, c'est très fort. Et puis, elle est parfaite dans son imperfection. Elle décide là d'accepter ses imperfections et ses puissances de sorcière. Et l'autre truc que je trouve fascinant, c'est la sorcière. Sorcière qui est toujours un mot très lourd aujourd'hui, c'est incroyable. Même, je pense qu'il y avait des gens, quand ils critiquaient Hillary Clinton, ils l'appelaient une sorcière. C'est comme, c'est chaque fois que c'est une femme qui a une puissance, et ça fait peur aux autres. Et donc c'est un mot qui est très lourd, qui est très négatif toujours. Mais dans ce livre-là, c'est quelque chose de très positif aussi. Puis imagine une femme sur une île, c'est une cible évidente. Et ça, je trouve, mais dingue. C'est quand il y a plusieurs scènes où, avant l'équipe de Ulysse, des hommes qui arrivent sur un bateau, qui ont besoin de rester quelques jours. Et là, ils arrivent. Ils demandent quelque chose à manger, ils sont à table. Et là, ça se voit qu'ils commencent à regarder. Ah, tiens, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de père. Ah, c'est vraiment une cible, là. Et donc, il y a une sorte de changement vis-à-vis des hommes. Et c'est les rôles qui inversent, parce qu'elle, évidemment, elle sait que c'est elle qui a la puissance. Mais elle joue le jeu.
Oui, parce qu'ils ne savent pas.
Eux, ils ne savent pas. Et donc, c'est à ce moment-là que le dernier moment où elle les attrape, c'est vraiment c'est vraiment magique à lire ça. Et là, je vais dire, mais en anglais, « It was my favorite moment, seeing them frown and try to understand why I wasn't afraid. In their bodies, I could feel my herbs like strings waiting to be plucked. I savored their confusion, their dawning fear. » then I plucked them.
Elle est cruelle.
Elle est cruelle, en même temps, c'est les hommes qui sont là, en train de,
qui sont prêts pour l'attaquer. Donc,
oui, parce qu'auparavant, il y a un autre homme qui vient seul, et bon, ça devient son amant.
Quoi. Oui, oui.
Il est beau.
Il est beau.
Elle, voilà.
C'est un bonheur d'avoir ce livre où on est vraiment avec Cersei, on est avec elle. C'est écrit dans une façon très moderne. Et en même temps, tu es dans les extrêmes. Bon, je ne t'aime pas, donc je vais te transformer en monstre. Et on peut imaginer des moments où on a envie d'avoir les mêmes pouvoirs.
Après, tu veux parler duquel? Peut-être. Ouais, Janet. On sent que Janet, c'est. Voilà. Donc, Janet Winterson, qui a effectivement, comme tu disais tout à l'heure, est l'auteur d'énormément de livres, donc romans, essais, livres pour enfants. Bon, en français, beaucoup moins de ces livres ont été traduits, hein, finalement assez peu. Puis de manière assez éparpillée, en fait, il y en a eu aux éditions des Femmes, chez Plon, et plus récemment, donc aux éditions de l'Olivier. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont donc plutôt découvert Janet Winterson chez l'Olivier avec Les oranges ne sont pas les seuls fruits, puis Pourquoi être heureux quand on peut être normal. Et je trouve que Janet Winterson, c'est vraiment cette capacité à nous faire suivre un personnage sorti, enfin c'est de la pure fiction quoi, et nous faire traverser comme ça des nappes d'époque et de milieux très différents. Et dans son donc dans le livre dont on va parler, Frankenstein, qui était sur la première liste du Booker Prize 2019, bon, malheureusement il n'est pas donc sur la shortlist. Donc je pense que tu vas nous faire part de ta tristesse pour ça. Mais du coup dans ce livre-là, effectivement, on va suivre sur plusieurs époques, enfin deux époques différentes. Ça commence avec le personnage de Mary Shelley, qui est donc l'auteur de Frankenstein. Donc ça se passe au 19e siècle, au début du 19e siècle. Et donc ça se passe donc à Genève quand Mary Shelley s'est enfuie en fait avec donc elle s'appelle pas encore Mary Shelley à ce moment-là. Mmh. Elle s'est enfuie avec l'homme qu'elle aime qui est Percy Shelley, mmh, voilà, le fameux poète. C'est ça, à Genève, en Suisse, voilà. Et ils vont être dans cette retraite. Alors, il y a aussi Lord Byron et puis...
Lord Byron et puis sa maîtresse. Claire, ouais. Clermont. Et le docteur de Lord Byron.
Polidori, oui. Voilà. Oui. Et donc, ils sont dans ce monde-là, ils échangent, donc un peu surtout les conflits qu'il y a en Europe à ce moment-là, les conflits sociaux, oui. Notamment les luddistes, que je connaissais, pas, mais donc des révoltes ouvrières, ils parlent de liberté, d'amour. Bon, ils mangent, ils font l'amour, il pleut, donc voilà, ils refont l'amour. Et en même temps, en parallèle, donc, on a une autre histoire qui se passe donc aujourd'hui, ou dans une sorte de dystopie, donc peut-être dans quelques années. Donc on est en plein dans l'intelligence artificielle et ses probabilités avec donc quelqu'un, une sorte d'orateur qui a vraiment le vent en poupe et qui parle de ces questions-là, un docteur qui s'appelle Dr. Rye, mais donc on va découvrir par la suite qui est ce personnage, et puis un autre personnage, Ron, qui voilà, s'est lancé dans les sex bots. Et donc Victor Stein, en revanche, qui est une sorte de spécialiste, on va dire, de l'intelligence artificielle. Voilà. Ouais. Moi, du coup, je l'ai lu parce que tu m'avais dit de le lire. Il n'est pas encore sorti en français, mais
ouais.
Grosse claque.
Ouais, si. Mais je pense que c'est un livre urgent. C'est un livre vraiment un livre pour aujourd'hui avec tous les changements de technologie. Mais c'est frappant. Cette histoire qui est racontée en hybride, qui est les deux histoires parallèles. Et c'est vraiment frappant de passer entre la poésie, son style très lyrique avec les poètes, mais aussi j'ai adoré toutes les discussions un peu philosophiques le soir entre Byron et Shelley. Même si Mary Shelley, elle n'est pas considérée au niveau de Byron, par exemple, parce que voilà, c'était l'époque, et je sais qu'il y a un moment où elle dit, Shelley, elle dit, est-ce qu'il n'y a pas plus que le mariage pour les femmes? C'est que le mariage pour la femme? Et puis lui dit, bah, certainement pas. Enfin, évidemment, c'est que le mariage pour les femmes. Mais en même temps, elle participe dans toutes ces discussions philosophiques sur l'âme, sur sur le temps, sur la conscience, sur les fantômes, sur la différence entre l'homme et la machine. Et c'est beau parce que c'est à la fois cette histoire-là avec l'histoire d'aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui ou juste un peu dans l'avenir, est très différent en termes de style, mais il y a beaucoup de liens parce que l'histoire d'aujourd'hui est aussi en train de discuter. Voilà, c'est quoi la différence entre les machines et les hommes? C'est quoi... Enfin, il y a deux trucs en particulier dans l'histoire contemporaine. C'est le Victor qui est très intéressé dans un centre où il congèle les cerveaux des gens qui viennent de mourir. Si on paye, on peut être congelé. Avec l'idée que quand la technologie est là, ils vont décongeler les cerveaux pour aller, je sais pas, sur un corps de robot ou upload it dans un ordinateur. Et donc il y a ça et aussi le côté sex bots que et Jeanette, elle a dit que tout est vrai. Elle a fait une recherche, une énorme recherche, et tout existe. Ça existe, cet centre où on peut congeler notre cerveau. Toutes les choses sur les sexbots, ça existe. Et ça, vraiment, c'est frappant. Et aussi, là, c'est un moment, sur une question féministe, où on voit, il y a à la fois, c'est la dualité de la technologie, encore, c'est quelque chose qui peut être très positif, mais aussi très négatif. Et pour la question des femmes, sexbots, comme il y a très peu de femmes qui travaillent dans le monde de technologie, et c'est surtout les hommes, sexbots, c'est un bon exemple de comment on est en train de retourner un siècle sur comment les femmes sont traitées. Là, il y a c'est Ron qui est en train de créer toute une ligne de sexbots, qui dit, voilà, les sexbots, ça fait un choix génial pour voyager. No nagging about stopping for lunch. Personne pour dire il faut arrêter pour déjeuner. Personne qui a besoin d'aller aux toilettes. Pas de crise parce que t'as réservé un hôtel qui est pas super. Elle est à côté de toi. Elle a des cheveux longs. Elle a des jambes longues. Et c'est toi qui choisis la musique. Elle choisit pas la musique. Elle est belle. Mais elle va avec tous tes choix. Et ça, c'est génial. Wow.
Et du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, le personnage de Rye, qui est donc Marie, enfin, on va découvrir que c'est l'héroïne, donc qui rencontre tous ces personnages-là, étrangeurs. Et donc effectivement, elle va débattre avec lui de ça. Elle lui fait remarquer qu'il n'y a pas de sexbot pour les femmes. Enfin, pour les femmes, en tout cas, il n'y a pas de sexbot homme.
Non.
C'est que des femmes.
Voilà. C'est que des femmes. Mmh. Oui. Oui, et c'est cette question de transgenre, c'est Jeanette, je trouve qu'elle elle plonge vraiment dans ce sujet-là, qui est pas, on n'a pas beaucoup de livres qui parlent de ça en ce moment, et c'est fascinant comment elle traite ça. Rye, qui est transgenre, il dit voilà, j'ai pas fait ça pour mettre une distance entre moi et moi. J'ai fait ça pour être plus proche à moi. Et donc, il y a plusieurs moments où Rye, il a besoin de justifier lui-même et sa position et toutes ces questions. Bah, t'es femme ou t'es homme?
Voilà.
T'es
si t'as pas un sexe, est-ce que t'es un homme? Et ce personnage répond, ça veut dire que les hommes, être homme, ça serait dû avoir une bite, etc.
Exactement. Ouais. Et puis, Victor, qui est la personne...
qui congèle les cerveaux.
Qui congèle les cerveaux et qui est un peu un dieu dans le monde technologique. Et la raison qu'elle fascine Victor, c'est que lui, Victor, il dit... Toi, tu as choisi de changer ton évolution et tu as accéléré quelque chose que tu avais envie. Donc, tu as accéléré les possibilités. Et c'est ça qui fascine. Et c'est ça qui fascine aussi avec la technologie. C'est que, voilà, c'est vraiment des sujets très importants à réfléchir. C'est un sujet très sérieux qu'elle va profondément dedans, mais aussi, comme tu avais dit, avec beaucoup d'humour.
Oui. Parce que c'est, de toute façon, tous ces moments-là sont drôles. Les moments avec les sex-boats, qui parfois s'enclenchent tout seuls et disent des insanités parce qu'ils sont en mode chambre. Alors, il faut les remettre en mode je sais pas quoi.
Social.
Oui. Voilà, exactement. Donc, effectivement, il y a des moments... Il y a des moments assez drôles. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène... Bon, je pense qu'on peut, le dévoiler de relation amoureuse entre Victor et Rai. Voilà, quand ils font l'amour ensemble, c'est extrêmement beau. Du coup, je trouve que c'est une lecture extrêmement dynamisante, quoi, qui donne envie de foncer et de... Voilà.
Le livre est très dynamique. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est le mot parfait pour... Et ça, c'est Jeanette. Elle a une énergie dans son écriture qui est frappant. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs échos entre les deux histoires. Qu'est-ce qui se passe quand on a crié quelque chose et après, peut-être, ça devient plus puissant que nous, et puis c'est trop tard. Mm. Et là, Mary Shelley a dit, voilà, mon personnage principal va créer un homme plus grand que la vie, il va lui rendre envie. Je vais utiliser l'électricité, la tempête, un éclair, et je vais lui donner du feu comme Prometheus.
Comme Prométhée.
Pour faire un lien avec Cersei, là. et il va voler la vie de Dieu. Et puis après, on passe dans l'autre histoire. Le personnage de Victor, c'est vraiment... on peut dire... Il pense que c'est un peu un dieu. Mais quand on a créé quelque chose, quand c'est fait et on ne peut pas...
Revenir en arrière.
Mmh. Et donc... Ça, ça m'a beaucoup... j'ai passé pas mal de temps à réfléchir sur cette question aussi. Et je pense qu'elle fait le lien dans une façon très, très beau.
Ouais, comme tu disais, ça pose une grosse question là-dessus. Donc ça, c'est pour Frankenstein de Janet Winterson, qui, je pense, sortira bientôt en France. Et donc, le dernier livre, c'est Archives des enfants perdus de Valeria Luzzi. Donc, c'est sorti en septembre, enfin en août. Aux éditions de l'Olivier. Donc, Archives des enfants perdus de Valeria Luzzi, qui est traduit par Nicolas Richard. Valeria Luzzi, qui est née en 83 à Mexico, qui vit aujourd'hui à Harlem. Elle a été interprète aux États-Unis pour les cas d'enfants migrants d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qui devaient raconter leur histoire afin de pouvoir ou pas obtenir un statut. Et du coup, au départ, quand on lit son livre « Archives des enfants perdus », on croit que c'est inspiré de cette expérience-là, puisque ça parle effectivement de ces enfants migrants, mais en fait, c'est une pure fiction. Hein. C'est ce qu'elle précise par la suite. Mm. Bon, c'est extrêmement beau, extrêmement habile sur le couple. Magnifique. Mm. Sur la relation aux enfants, magnifique. Sur ce que c'est qu'un projet. Et sur ce que c'est qu'un projet quand on est un couple. Enfin bref, c'est un roman tellement inspirant. Donc je vois très très bien pourquoi tu l'as choisi.
J'ai eu un coup de cœur aussi. Et j'ai trouvé que c'est un livre profondément engagé politiquement. Et c'est écrit avec une sorte d'urgence sur chaque, qui est ressentie sur chaque page. J'ai trouvé tout le côté politique par rapport les enfants qui passent par Mexique aux États-Unis, très important, puissant, mais aussi difficile. Surtout que souvent, ils sont en famille en train d'écouter la radio avec l'actualité qui est sur les enfants qui sont en train de passer, avec leurs deux enfants au fond qui posent des questions, mais pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Ces enfants sont perdus et sans parents. Et pourquoi ils sont rejetés à la frontière. Enfin, et là, il y a un moment où elle décrit le voyage que ces enfants doivent faire. C'est horrible parce qu'elle raconte que les enfants, quand ils sont très jeunes, c'est très difficile d'avoir des détails de leurs histoires parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Mais si... Ils n'ont pas une histoire très forte, ils sont immédiatement rejetés. Donc c'est juste horrible. Il y a un moment où elle raconte
pourquoi ces enfants, enfin le voyage qu'ils doivent faire sur les trains, qu'ils doivent éviter de tomber dans les mains de groupes de drogue pour le monde de drogue, et aussi éviter les autorités pendant un moment. Et après, quand ils arrivent, s'ils ne sont pas tués pendant ce parti de voyage, ils arrivent vers la frontière, et s'ils ne voient pas un officier, ils vont traverser le désert toute seule. Et après, dès qu'ils trouvent quelqu'un des autorités des États-Unis, ils sont mis dans une zone de détention. Et puis là, tout le monde demande pourquoi ils sont là. Pourquoi t'es venu ici? Et personne demande pourquoi t'es parti de chez toi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et personne fait le lien entre les guerres précédentes et l'histoire. Et donc c'est vraiment c'est difficile ces parties-là. Et puis voilà, le lien avec les deux enfants qui écoutent aussi la radio, qui sont très intelligents, qui veulent comprendre. Et d'avoir leur perspective. Et aussi, là, je trouve qu'elle est incroyable quand elle est toujours en train de explorer la perspective d'enfant, la différence entre les adultes et les enfants. Il y a un moment où elle dit, quand ils posent pour une photo, elle dit « Adults pose for eternity, children for the instant. » Les adultes pour l'éternité, les enfants pour... l'instant, pour le tout de suite. Et là, c'est aussi une partie très drôle, son perspective, son écriture sur l'enfance, et très touchant. Il y a un moment, je ne sais pas si tu te souviens, où elle dit que les choses que les enfants, les parents peuvent donner aux enfants, en fait, c'est assez... simple et basique, c'est comme ça que tu coupes tes ongles, c'est comme ça que tu fais un shampoing dans les cheveux, c'est comme ça que je t'aime. Mais les enfants, ce qu'ils donnent aux parents en retour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui dure beaucoup plus longtemps. C'est une sorte de force, pour moi c'est 185, c'est une sorte de force pour embrasser, pour chercher la vie, pour comprendre la vie, pour les expliquer à eux. Mmh. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très beau, cette explication. Et je pense qu'elle a vraiment une façon très originale de faire le lien entre les enfants et les adultes.
Oui, mais d'ailleurs, elle dédie son livre, je pense, à ses deux enfants. Elle leur met pour Maya et Dylan, qui m'ont complètement fait redécouvrir l'enfance. Donc, je ne sais pas si c'est ses enfants ou des enfants, mais c'est clairement un angle du livre. Et d'ailleurs, donc oui, tu parlais de ces scènes où ils sont dans la voiture, ils parlent énormément de temps dans la voiture. Et du coup, les parents parlent. Alors, le père parle de son projet sur les enfants, sur la pacheria. Et elle parle des enfants qui migrent et qui se... Enfin, et eux, ils imaginent que c'est des enfants perdus, mais ils sont perdus, finalement. Est-ce qu'ils sont perdus? Ils sont perdus pour nous aussi, dans le sens où on s'en occupe pas et on sait pas comment s'en occuper. Et puis, oui, le truc qu'on n'a pas dit aussi, qui est, en fait, c'est ce qui fait qu'elle part, le personnage de, donc, l'héroïne, c'est qu'elle a été contactée par une mère dont les deux filles, donc une mère qui est encore aux États-Unis, dont les deux filles sont en train d'essayer que ces deux filles sont en train de rejoindre depuis le Mexique. Et elle espère que peut-être le personnage va réussir à les retrouver, ou en tout cas, elle-même est obsédée par ces deux enfants-là, perdus.
Et c'est deux enfants qu'ils ont mis un numéro de téléphone. Ouais. Dans leurs vêtements.
Ouais. C'est le seul espoir. Voilà, c'était j'ai écrit leur numéro de téléphone. Enfin, ma tante ou ma sœur a écrit le numéro de téléphone. Et du coup, dès qu'ils arriveront entre les mains d'Américains, peut-être qu'ils composeront ce numéro de téléphone et peut-être je pourrai les retrouver.
C'est ça que j'ai trouvé très fort avec son roman. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a un moment où sa sœur a perdu une carte d'identité et donc elle doit fouiller dans les affaires de sa sœur, et elle dit pourquoi on peut être triste quand on fouille dans les affaires de quelqu'un comme ils sont déjà morts. Et qu'est-ce que ça veut dire, le lien entre les objets de la personne et la personne? Et donc elle est en train, au début elle est en train de chercher une carte d'identité, et à la fin elle est en larmes Et c'est les choses comme ça où enfin, il y a une sorte de fragilité. Puis aussi, son travail politique avec les enfants, son document, c'est de les rendre humains.
Alors, à la fin du livre, Valeria Luiselli remercie plein de gens et en fait, elle te remercie, Sylvia Whitman. Comment ça se fait?
Belle surprise.
Non, c'est juste parce qu'elle avait vécu au troisième étage de la librairie pendant quelques semaines, un été. Et je ne savais pas qu'elle était en train d'écrire ce livre. Je ne sais pas à quel moment elle était. Donc, j'aimerais bien lui demander à quelle partie du livre qu'elle a écrit là-bas. Mais j'étais très touchée. Très touchée. C'est vraiment quelqu'un que je vais suivre. Je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. Donc, voilà, j'ai hâte de lire le prochain.
Alors, du coup, pour finir, je voulais te demander, sur les trois livres dont on a parlé, s'il y en avait un seul que tu devais conseiller, retenir, lequel ça serait des trois?
Oh, c'est vraiment difficile. Ça, c'est vraiment une question horrible et impossible. Mais peut-être je
disais de Jeanette Winterson.
Tu n'es pas du tout surpris, je vois. Non. Mais... Ouais, je pense à Jeanette Winterson parce que voilà, c'est à la fois un roman puissant, plein d'énergie, mais en même temps, c'est vraiment, ça parle d'un sujet vraiment d'aujourd'hui et très important. C'est pour ça que j'étais très triste qu'elle était enlevée de la liste de Booker Prize parce que vraiment, je trouvais que c'était un des livres le plus à jour avec. Enfin, le plus important pour des questions qu'on est en train de vivre. Mais voilà, je pense que je vais aller pour Jeanette. Et je suis désolée pour toutes mes erreurs en français. Ok.
Vous venez d'écouter Sylvia Whitman et les trois livres recommandés sont Circé, de l'écrivaine américaine Madeline Miller, chez Pocket, Archives des enfants perdus, de Valeria Luiselli, aux éditions de L'Olivier, et Frankenstein, de Jeanette Winterson, chez Penguin Random House. L'entretien a été mené par Gladys Mariva et il a été monté par Mayel Diallo. Maud Benakcha était à la coordination, Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter sur les différentes plateformes et à le recommander autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au club de lecture dans lequel nous discutons des livres évoqués dans le podcast. Rendez-vous sur louismedia.com ou sur le compte Book Club Louis sur Instagram. À bientôt.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Media. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.